Bonjour David, bonjour à tous. L'îlot du Renard à Mauléon va réserver un emplacement de choix pour un restaurateur. La ville qui réhabilite le bâtiment est en effet à la recherche de la perle rare pour ce beau projet. Le Puy du Fou débute sa nouvelle saison samedi. Les hébergeurs locaux comme en Bocage-Bressuret vont de nouveau bénéficier de cette locomotive touristique. En matière touristique, dans le Toircé, on mise sur la route des vins, un circuit d'une cinquantaine de kilomètres à travers 20 domaines viticoles. Ce sera probablement la dernière après quelques 500 représentants. Le Bocquin Jérôme Rouget sera sur la scène de Bocapol ce samedi pour donner son spectacle « Je me souviens ». La prise de parole de Laurent Villa, le futur ex-entraîneur de Cholet Basket, s'est expliqué sur son choix de quitter le club malgré les propositions faites par les dirigeants. Météo France a placé notre département ainsi que la Vendée en vigilance orange en raison de vents et de fortes rafales attendues notamment cet après-midi. Le vent qui a déjà bien soufflé hier soir et la nuit dernière. D'ailleurs, quelques foyers ont subi des coupures de courant. Les bourrasques peuvent faire tomber des arbres déjà fragilisés par les sols gorgés d'eau, comme ce fut le cas entre Cirières et Cerisé. Autant que possible, il est conseillé de limiter les déplacements. À suivre les prévisions de Météo France à la fin de ce journal. L'entreprise niortaise Hainaut, placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Niort. Le leader national de fabrication de planchas a connu une progression de son activité depuis 2020, mais au printemps 2023, la situation s'est inversée en cause notamment le retour de la concurrence asiatique et la hausse faramineuse des prix de l'électricité et du gaz dont la société est gros consommateur. Elle emploie aujourd'hui 70 salariés, ils étaient 120 au plus fort de l'activité. La période d'observation court jusqu'en juillet prochain. Alors que les travaux de l'îlot Place du Renard à Mauléon ont démarré la semaine dernière, démarrage par la phase des amiantages des bâtiments, la petite cité de caractère est désormais en quête du restaurateur qui voudra bien venir s'installer dans ce quartier en cours de restauration situé en plein centre-ville face à l'hôtel de ville et à l'abbaye. Denis Prissé, adjoint au maire chargé du commerce et du développement économique, il répond à Jacqueline Pinon.
Les travaux commencent là jusqu'en juin-juillet 2025. Donc là maintenant, tout notre travail à nous, c'est de lancer les appels à candidature et puis d'aller chercher le restaurateur. On pense que pour avoir travaillé depuis plusieurs années maintenant sur ce projet-là, où on a intégré un restaurateur qui nous a aidé justement à monter ce projet techniquement aussi, on pense qu'on a un bel écrin. Tous les professionnels qui ont regardé un peu le dossier nous ont tous dit que c'était quand même quelque chose de vraiment à la hauteur. Donc maintenant, ben voilà, on va essayer d'aller chercher l'équipe, concrétiser. On aura fait notre travail d'une belle façon quand on aura trouvé le restaurateur qui va pouvoir animer ce lieu. Et ce lieu qu'on estime, nous, extrêmement important pour le centre-ville. C'est un point de départ, quelque chose qui doit nous servir dans la stratégie d'animation du centre-ville.
La ville, propriétaire des bâtiments, les aura entièrement restaurés, à charge pour le futur restaurateur de s'approprier les lieux. 154 mètres carrés de surface et deux terrasses.
On a un restaurant avec 50-60 couverts en salle, 40 couverts en terrasse, une terrasse à l'étage qui peut aussi être privatisée.
La balle est quand même dans le camp du restaurateur qui pourra s'approprier le bâtiment.
On nous a conseillé de laisser aux porteurs de projet. Toute la partie immobilier doit être prise à sa charge, la partie cuisine. Il doit poser sa touche, sa patte à l'établissement, sa signature à l'établissement. Maintenant, c'est à nous de trouver
la perle rare.
La perle rare, tout à fait.
Un investissement de 1 665 325 euros pour la ville, largement subventionné par l'État à hauteur de 400 000 euros. La région Nouvelle-Aquitaine, 233 000. L'agglo, tout comme le Sieds, mettent aussi la main à la poche à hauteur de 30 000 euros chacun pour un autofinancement de 979 000 euros. L'appel à candidature pour trouver le futur restaurateur du centre-ville de Mauléon sera lancé début avril pour une ouverture espérée en juillet 2025. Le Puy du Fou se prépare pour une nouvelle saison qui sera lancée ce samedi avec sans doute l'ambition de faire encore mieux qu'en 2023. L'an passé, 2,5 millions de personnes ont en effet franchi les portes du parc vendéen, un vivier de touristes qui profitent aux hébergeurs, y compris dans le Bocage-Bressuret où le nombre de logements locatifs touristiques ne cesse de progresser, comme le constate Philippe Robin, le directeur de l'office de tourisme du Bocage-Bressuret au micro-colline de Fabien Gazot.
Nous pensons très fortement qu'on va franchir la barre des 500 hébergements à la fin de l'année, ce qui est potentiellement énorme, ce qui nous place en tête dans tous les territoires qui sont autour du Puy du Fou, parce que nous, faut pas se cacher, hein, c'est comme le Puy du Fou qui a notre grosse locomotive. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de proposer des week-ends, 2-3 jours un petit peu plus sportive autour de la mobilité en venant de Paris, combinant le train, la location de vélo et l'accès au Grand Parc. Mais ça peut être aussi à Molévrier, mais ça peut être aussi sur des destinations autour des Terra Ventura, qui fait la force de la Nouvelle-Aquitaine.
L'ouverture du Puy du Fou ce samedi 30 mars marque donc le début de la saison touristique. On en reparlera d'ailleurs, hein, puisque le parc organise une conférence de presse demain après-midi pour présenter cette nouvelle saison. Signalons que pour fêter Pâques, le Puy du Fou organise sa première grande chasse aux œufs du 31 mars au 15 avril. 10 œufs de Pâques, tous fabriqués en bois par le sabotier du Puy du Fou, seront dissimulés dans 10 villes de France, toutes liées aux héros des spectacles du parc. Angers, Orléans, Bordeaux, Brest, Lyon, Strasbourg, Nantes, Marseille, Versailles et Paris. Pour gagner les lots mis en jeu, les participants devront résoudre des énigmes qui seront diffusées sur les réseaux sociaux du Puy du Fou à partir de ce dimanche. La route des vins mise sur les rails en Toircé. Elle devait naître l'an dernier, mais elle a été portée sur les fonts baptismaux lors du récent 75e Salon des Vins. La route des vins du Toircé, qui réunit 20 domaines viticoles, constitue un centre d'intérêt nouveau pour le tourisme local. Un périple de 50 km très convaincant, comme le souligne le nouveau directeur de la maison du Toircé, Tristan Mercerol, au micro-colline de notre correspondant sur place, Dominique Hérault.
C'est une route à travers donc plusieurs villages, notamment Saint-Martin-de-Sanzay, Bouilly-Loré, Saint-Pierre-à-Champ, Cercey, Bouilly-Saint-Paul, et Sainte-Verge et Thouars, bien sûr. Le plus près possible des domaines viticoles, à travers les vignes, vous avez une soixantaine de panneaux, et on a gardé le même logo que la route des vins du Val-de-Loire. Ce qu'on voulait surtout, c'était apporter un élément positif, un élément supplémentaire, avec trois haltes d'information. Une à Saint-Martin-de-Sanzay, où là, vous avez un spot extraordinaire sur le domaine du Belvédère, et on a mis des panneaux d'information, notamment sur la géologie, pourquoi il y a des vignatoires. Et ensuite, on a fait une halte d'information à Bouilly-Loré, où on explique le travail des vignerons pendant 4 saisons. Et donc, on a là, à Bouilly-Loré, une randonnée pédestre de 7 km à travers toutes les vignes. Là, c'est extraordinaire. Et à Saint-Pierre-à-Champ, on a une histoire assez particulière avec une cabane de vignes où a été découverte la tombe de Monsieur Martin. Et donc là, la commune a créé toute une parcelle. Et donc, nous, on va venir mettre des panneaux informatifs où là, vraiment, le thème, c'est l'homme et la vigne. Donc là, on va mettre des vieilles photos de vendanges, etc., pour expliquer tout le travail des vignerons à travers les époques.
La route des vins, qui a mûri comme du bon vin pendant une dizaine d'années, a séduit les visiteurs des salons de l'agriculture en 2023, mais aussi particulièrement cette année. Tristan Mercerol.
On a eu un succès extraordinaire, un accueil extraordinaire par les Parisiens, et une découverte pour eux sur tous les vins Toircet. On leur a expliqué déjà où c'était les Deux-Sèvres, hein, pour leur expliquer notre situation qui est extraordinaire entre le Puy du Fou, le Futuroscope, les Château de la Loire et le Marais Poitevin. On a la chance d'être dans un milieu rural, apaisé, avec des tarifs touristiques qui sont tout à fait accessibles pour tout le monde. On attend maintenant la venue des Parisiens qu'on a pu rencontrer au Salon de l'Agriculture à Paris. On attend de leur faire découvrir notre territoire et la route des vins, tous les vignerons, tous les vignobles qui sont présents sur notre territoire.
Au final, cette mise en scène viticole de la route des vins aura coûté 60 000 euros, financée à 20% par la communauté du Toircé, mais aussi par la communauté européenne touristique. Elle permet également de consolider la filière viticole, jamais à l'abri de la fragilité économique. La route des vins ne demande donc qu'à faire, si l'on osait, un très long chenin. Reportage signé Dominique Hérault. Après 17 ans de tournée avec ce spectacle à travers la France et les pays francophones, plus de 500 représentations, Jérôme Rouget est de retour à Bressuire pour ce qui sera probablement la dernière de Je me souviens. Ce sera ce samedi. Le spectacle a pris sa source dans le bocage bressuré, plus exactement à Terve, puisque l'auteur y évoque des souvenirs de son enfance et de son adolescence, mais avec évidemment l'ambition d'être universel. Il n'est en effet pas nécessaire d'être de ce territoire pour s'y retrouver, car le spectacle fonctionne aussi bien en milieu rural comme dans les grandes villes, confirmation apportée par Jérôme Rouget.
Je me souviens, la première fois où j'ai joué vraiment dans une grande ville, c'était à Marseille, donc j'étais un peu inquiet, et puis j'ai vu que ça a trouvé vraiment un fort écho, puis après j'avais fait une série de 46 représentations à Paris, au Lucernaire. Pareil, j'avais été assez content de l'écho que ça avait rencontré. Je me souviens notamment d'une discussion à la fin avec un spectateur qui m'avait dit qu'il avait beaucoup apprécié. Je lui ai demandé s'il était parisien, il m'a dit oui, parisien pure souche depuis des générations. Je lui ai dit ah oui, ça vous a parlé. Il m'a dit bah oui, écoutez, bah, je lui dis parce que quand même c'est pas des choses que vous avez vécues. Bah, il me dit non, mais écoutez, c'est comme si un chinois venait vous raconter son enfance. C'est pas parce que vous avez pas vécu la même chose que c'est pas intéressant. Et j'avais trouvé cette remarque assez juste.
Après le spectacle et l'entracte, Jérôme Rouget racontera l'histoire de la création de ce spectacle, livrera aussi des « Je me souviens » inédits, écrits mais jamais donnés sur scène, un spectacle qui a aussi été couché sur papier.
Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est dommage quand même que ça s'arrête. » Et puis en plus, voilà, et ce serait bien d'avoir une trace, parce qu'il y a quand même un aspect un peu patrimonial aussi dans cette affaire qui est intéressante avec le temps. Et justement, on a décidé de sortir le texte. On a sorti un petit livre qui s'appelle « Je me souviens », où il y a aussi les suppléments, aussi les « Je me souviens » que je vais dire samedi. En plus, c'est un bouquin en deux parties. Et donc, on va le proposer à la vente, là, samedi. Et on vient juste de le recevoir. Voilà, ça va être vendu 10 euros pour les gens qu'on envie.
Le comédien Jérôme Rouget sur la scène de Bocquepol-Bressuire pour son spectacle Je me souviens, c'est donc ce samedi à partir de 20h30, il reste encore quelques places. En rappel, une nouvelle soirée prestige du Centre des jeunes dirigeants Nord de Sèvres aujourd'hui à Bocquepol sur le thème La vie est un défi, interviendront le nageur Camille Lacour, spécialiste des épreuves de dos, totalisant à son actif pas moins de 5 titres mondiaux, mais également Christine Ockrent, icône féminine du journalisme en France. Elle était la première femme à avoir présenté le journal de 20h. La soirée débute à 18h. Le concert du groupe San Salvador, initialement prévu demain, vendredi, au Théâtre de Bressuire, a été annulé pour des raisons de santé de l'un des membres. Les festivités ont dû se résoudre à reporter le concert du mois d'avril à Bocquepol. En effet, Mo Vivi, l'un des groupes à l'affiche, a annoncé le report de sa tournée pour des raisons de santé. Le concert qui devait se jouer à Bocquepol est donc remis à plus tard et l'équipe organisatrice des festivités va pouvoir se concentrer sur l'organisation du concert du 29 juin au stade de Moutier, comme à la belle époque d'un festival qui a marqué toute une génération et qui fait donc son retour avec sur scène les Fatal Picard, Joyeux Bordel, les Trois Fromages et Flagrant Délire. Et puis en raison des conditions météo, la ville de Thouars et des communes et ses communes déléguées ont décidé de fermer les parcs et jardins publics aujourd'hui pour des raisons évidentes de sécurité. Au lendemain de l'annonce du club concernant Laurent Villa, eh bien ce dernier s'est exprimé hier en début d'après-midi. Souvenez-vous, mardi, la direction de CB a annoncé que Laurent Villa ne serait plus l'entraîneur du club la saison prochaine. Celle-ci proposait une prolongation de contrat, mais le technicien en poste depuis 3 ans avec de bons résultats ayant permis à Cholet Basket de retrouver les playoffs et l'Europe a décliné la proposition. Vous avez sans doute écouté le président Mérignac ici même hier, mais Laurent Villa a aussi voulu faire entendre sa voix, estimant que le timing n'était pas bon, tant pour la décision que pour l'annonce.
Prendre une décision aussi rapide alors que certes, il y a du mouvement en coulisses, mais rien de fixé, rien de statué. Je trouve que voilà, le timing n'est pas le bon, ni pour prendre une décision d'ailleurs, il n'y a pas d'urgence, ni pour annoncer quoi que ce soit. Mais ça, c'est mon point de vue.
Les négociations entre le club et le coach avaient commencé en décembre. Elles portaient sur le projet du club, mais aussi sur les termes du contrat. Et c'est là que le bât blesse, puisque Laurent Villa a refusé une première proposition qui portait sur un contrat d'un an, assorti d'un an supplémentaire en cas de qualification au play-off, avec un salaire légèrement à la baisse. Une proposition jugée indigne par le technicien, qui a également rejeté la deuxième offre, qui proposait 2 ans de contrat, mais avec un salaire toujours inférieur à l'actuel.
Je trouve que c'est pas fair play et compte tenu du travail fait depuis 3 ans et quand on vous dit au quotidien on compte sur toi, on veut continuer, tu fais bon boulot, merci, enfin je veux dire, moi j'ai rien inventé hein, et qu'on fait ce genre de proposition, franchement c'est bizarre et c'est pour ça aussi que je voulais que vous le sachiez parce que on est dans une situation où s'il y en a qu'un seul qui parle, on prend pour argent comptant ce qui est dit. Or, il n'y a pas eu de détails. Il y a eu quelques arguments dans la non-connaissance de la masse salariale ou autre. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont intéressantes de savoir avant de se lancer dans un projet. Mais avant tout, là, on parle de ma situation, de mon travail et d'une proposition de contrat.
Malgré d'évidentes tensions, Laurent Villa se dit totalement investi sur la fin de saison. Prenons pour exemple le match de Saint-Quentin samedi dernier où il savait déjà que les négociations n'iraient pas plus loin. Son titre de meilleur entraîneur du championnat de la saison passée lui confère une certaine cote sur le marché, mais le Pyrénéen nie tout contact avec un club actuellement. Il a d'ailleurs confessé avoir refusé en août dernier, en respect de ses engagements, un poste d'assistant à Vitoria en Espagne, un championnat espagnol qui l'attire. Mais Cholet était-il assez ambitieux pour lui ? Écoutez sa réponse, toujours au micro Colline de Vincent Nori.
Bien sûr, on progresse à la vitesse que l'on peut, avec les moyens que l'on a. Mais après, il faut essayer de progresser à tout point de vue. Donc on n'est pas d'accord sur tout, mais on a quand même aussi avancé sur pas mal de choses. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est écrit pour l'année prochaine, quoi. Je veux dire, au niveau du club. On ne sait pas si on fera des play-offs, on ne sait pas si on va être en Europe. Il y a plein d'incertitudes. partir de là, il faut être un peu patient, il me semble.
Laurent Villers va donc quitter Cholet à la fin de la saison, mais celle-ci n'est pas finie. Le club pointe à la 6e place de Betclic Elite, avec 8 matchs à jouer en saison régulière, dont 6 face à des moins bien classés. C'est bien donc une carte à jouer dès ce samedi sur le parquet de Nancy, actuel 14e au classement. Au chapitre des faits divers, une vingtaine de pompiers de Mauléon, Neuilly-des-Aubiers, Cerisay, Bressuire et Cholet sont intervenus en fin d'après-midi hier à Mauléon pour un incendie qui s'est déclaré dans les combles d'une maison rue Alexis de Châtillon. Le couple qui y réside a été évacué sain et sauf.